Bonjour Toufik, bonjour à tous. Après le raz-de-marée Bolsonaro au Brésil, le second tour de la présidentielle s'y annonce tendu. Le candidat de l'extrême droite est en position de force face à Fernando Haddad, le poulain de Lula. Mais y aura-t-il face à lui un front républicain ? Rien n'est moins sûr, nous dira notre correspondante. Au Cameroun, les résultats ne sont pas encore connus, mais un candidat à la présidentielle se déclare déjà vainqueur. Espoir qui pourrait être rapidement douché, vous le comprendrez. Dans cette édition encore, nous ferons un point sur la loi Pacte en France, qui fera l'objet d'un vote solennel à l'Assemblée cet après-midi. Les mesures sociales en entreprise, notamment, déçoivent. Et puis, zoom sur un collectif de députés qui vient de se créer. Ils sont une quinzaine à vouloir faire plus pour la planète, au lendemain de l'alerte lancée par les experts du GIEC. La bataille pour le second tour de la présidentielle a déjà commencé au Brésil. Après la victoire écrasante de Jair Bolsonaro dimanche, les manœuvres politiques débutent pour tenter de rallier les bonnes volontés contre l'extrême droite. Pour le moment, l'idée d'un front républicain existe bel et bien, mais les candidats manquent à l'appel, Anne Vigna.
Après le choc des 46% de vote obtenu par le candidat d'extrême droite dimanche soir, c'est une espérance qu'on entend le plus dans la bouche des partisans de la gauche, comme dans celle de l'écrivain et éditorialiste Fernando Moraes.
Depuis dimanche soir, nous devons monter un grand front national contre le fascisme.
Mais pour monter ce front commun, le Parti des travailleurs a plusieurs handicaps, selon le politologue Octavio Amorim.
Le Parti des travailleurs n'est pas préparé pour monter une coalition républicaine comme Jacques Chirac. Le PT a une tactique très rigide. Il y a beaucoup de problèmes avec les autres partis aujourd'hui à cause des erreurs commises par le PT. Bien sûr, Haddad va faire un mouvement vers le centre, mais je ne pense pas que ce sera suffisant. Bolsonaro, lui, n'aura pas besoin de faire de grandes concessions. Le mouvement qu'il va faire vers le centre est très modéré, car il est très proche de la victoire. C'est ça la grande différence. Il a une force électorale que Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen n'avaient pas.
Ce lundi, les ralliements à Bolsonaro ont été bien plus nombreux que ceux vers le Parti des travailleurs. Si la droite n'a pas encore pris position, beaucoup de ses cadres ont annoncé qu'ils préféraient l'extrême droite au retour du Parti des travailleurs. Les partis de gauche et du centre ne se rencontrent que ce mercredi, alors que pour les analystes, la rencontre aurait déjà dû avoir lieu, car le temps presse, la campagne est courte.
Et oui, le second tour aura lieu le 29 octobre, dans 20 jours, au Brésil. Lui se déclare déjà vainqueur, alors que les résultats ne sont pas officiellement connus. Maurice Kamto, président du mouvement pour la reconnaissance du Cameroun et la renaissance du Cameroun, affirme qu'il a remporté l'élection présidentielle face au tout-puissant Paul Biya, président sortant, candidat à sa propre réélection. Déjà, le ministère indique que Maurice Kamto se met hors la loi. Les précisions de Valérie Crova.
C'est par une métaphore footballistique, sport cher aux Camerounais, que Maurice Kamto a revendiqué sa victoire hier.
J'ai reçu mission de tirer le pénalty historique. Je l'ai tiré. Le but a été marqué.
Celui qui fut ministre délégué à la justice n'a pas indiqué ce sur quoi il se basait pour annoncer qu'il avait gagné. Mais dès dimanche soir, les résultats de centaines de bureaux de vote circulaient sur les réseaux sociaux. Les tendances le donneraient donc en tête. Pour autant, le Conseil constitutionnel camerounais, dont le président est un proche de Paul Biya, est le seul à pouvoir proclamer les résultats dans un délai de 15 jours maximum. Ce qui fait dire au ministre camerounais de la communication que Maurice Kamto s'est mis hors la loi en se proclamant vainqueur avant l'heure. Après la fermeture des bureaux de vote dimanche, un autre ministre, celui de l'administration territoriale, avait également prévenu toute forme de remise en cause du verdict des urnes en dehors des voies légales ne sera pas tolérée. Le pouvoir en place resserre donc les rangs autour de Paul Biya, le président sortant, en lice pour un septième mandat consécutif. Avant même le début des opérations de vote, le camp de Maurice Kamto avait quant à lui dénoncé les risques d'une fraude massive. Il est vrai que l'organisme chargé d'organiser le scrutin est lui aussi contrôlé par le pouvoir, ce qui laisse peu de doutes sur le nom du futur vainqueur.
Les États-Unis appellent à une enquête approfondie et transparente de la part de l'Arabie Saoudite sur la disparition d'un journaliste, Jamal Khashoggi. Il a disparu alors qu'il se trouvait en Turquie, dans l'ambassade saoudienne d'Istanbul. Les Turcs accusent Riyad de l'avoir fait assassiner sur leur sol. C'est au tour du FMI de revoir ses prévisions de croissance. Moins 0,2% pour l'année 2018. L'économie mondiale est devenue moins équilibrée, dit le Fonds monétaire international. Les experts soulignent que certains des grands risques identifiés en début d'année, notamment la hausse des bannières douanières, que ces risques sont en train de se réaliser. Et pour ces raisons, le FMI table sur une croissance globale stabilisée à 3,7% pour cette année, tout comme pour 2019, soit le même rythme que l'année dernière. Renouer avec la croissance, c'est un des objectifs de la loi Pacte en France, censée définir un nouveau modèle d'entreprise. Le texte doit être voté solennellement cet après-midi à l'Assemblée nationale, après les travaux des députés et des sénateurs. Catherine Pétillon.
La discussion parlementaire aura au final peu transformé le texte, et cela en dépit des 2000 amendements ajoutés en commission aux 73 articles initiaux. Avec ce texte, l'objectif affiché par le gouvernement, c'est de renouer avec l'esprit de conquête et la croissance en libérant les entreprises, pour reprendre les termes scandés par le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Difficile de résumer un texte très éclectique, il est question aussi bien des soldes, de la gouvernance de la Caisse des dépôts ou encore de la régulation des crypto-monnaies. Mais dans les grands volets, on peut retenir la volonté de faciliter la création et la transmission des entreprises, notamment via l'instauration d'un guichet unique en ligne pour réduire frais et démarches. Censé aider les entreprises à grandir, la réforme des seuils d'effectifs à partir desquels les entreprises ont des obligations sociales, un abaissement des contraintes administratives, se félicite l'exécutif, une diminution des droits sociaux, déplore l'opposition. Dans une discussion parlementaire technique, les débats ont été relancés autour des privatisations d'Aéroports de Paris, Engie et la Française des Jeux. La loi autorise la vente des actifs détenus par l'État afin d'alimenter un fonds de 10 milliards d'euros pour l'innovation de rupture. Toute une partie de la loi, enfin, vise des entreprises plus justes en modifiant la représentation des salariés ou encore l'objet social de l'entreprise. Et c'est ce volet plus social qui concentre le plus de critiques ou en tout cas de déceptions à gauche ou au sein des ONG. Elles jugent les mesures symboliques et dénoncent une ambition affichée mais sans traduction législative réelle qui puisse déboucher sur un changement au sein des entreprises.
Le monde doit engager des transformations rapides et sans précédent. Voilà ce que disaient hier les experts climat de l'ONU, indiquant qu'une cote d'alerte des températures pourrait être atteinte dès 2030. En France, les propos du GIEC ont eu un écho à l'Assemblée nationale. Une quinzaine de députés de 6 groupes politiques différents, tous ont décidé d'unir leurs forces pour donner plus de poids aux mesures favorables à la transition écologique. Ils ont ainsi créé un collectif qui se veut transpartisan. À l'origine de ce collectif, nous trouvons le député La République En Marche, Mathieu Orphelin. Il espère convaincre le plus de parlementaires possible, Olivia Chandiou.
Les députés doivent faire front commun face à l'urgence climatique. Voilà le message que le marcheur Mathieu Orphelin veut faire passer à ses collègues de l'Assemblée. Pour lui, le départ de Nicolas Hulot du gouvernement et les rapports alarmants des scientifiques sur le réchauffement climatique doivent être des électrochocs.
L'enjeu de transition écologique et solidaire, il est tellement important qu'il mérite qu'on pousse collectivement. Loi après loi, on va définir ensemble des avancées pour faire plus sur la mobilité durable, sur le projet de loi de finances, le déploiement des énergies renouvelables. Sur tous ces sujets-là, on va tout faire pour accélérer cette transition écologique et solidaire. C'est aussi un des grands enjeux du remaniement et surtout des semaines qui vont suivre le remaniement, comment on arrive à accélérer cette transition écologique. On n'a pas à rougir de ce qu'on a fait, mais je crois qu'il faut être honnête et reconnaître qu'il faut accélérer le rythme de la transition.
6 des 7 groupes politiques de l'Assemblée font pour le moment partie du collectif. Seuls les députés de la France Insoumise refusent d'y prendre part. Ils ne pardonnent pas aux députés LREM d'avoir voté contre l'interdiction du glyphosate et d'être allés dans le sens du gouvernement, comme l'explique Mathilde Panot, députée France Insoumise du Val-de-Marne.
Quelle a été la réponse des députés qui sont dans ce groupe et qui ont voté contre l'interdiction du glyphosate? C'est de dire, nous sommes pour l'interdiction du glyphosate, mais voter pour l'interdiction du glyphosate alors que le gouvernement s'est engagé à l'interdire dans 3 ans, c'est remettre en cause la parole du président. Nous, on dit, c'est pas possible de réfléchir comme ça, parce que si nous nous mettons d'accord sur des votes et que derrière, les députés de la majorité ne veulent pas voter parce qu'ils disent que c'est une remise en cause de la parole du président, alors on n'avancera jamais à rien.
De son côté, Mathieu Orphelin espère que plusieurs dizaines de députés rejoindront le collectif qui sera lancé officiellement mardi prochain.
Ce mardi, c'est le remaniement qui est attendu. Ce serait une question d'heure, a priori. catégorie. Un remaniement précipité par le départ de Gérard Collomb du ministère de l'Intérieur. Il est remplacé en ce moment par intérim par le Premier ministre Édouard Philippe. Ce changement dans le gouvernement pourrait être plus large que prévu. Changement gouvernemental quand des lycéens, étudiants, salariés et des retraités sont appelés à manifester aujourd'hui, justement contre la politique du gouvernement. Il s'agit du premier appel interprofessionnel depuis la rentrée. Le temps sera calme et ensoleillé aujourd'hui, excepté sur une partie des Pyrénées où des averses sont prévues par Météo France. Les Pyrénées orientales, l'Aude et l'Hérault sont d'ailleurs en alerte orage ce matin. Et les températures, elles sont assez homogènes avec 14 degrés à Brest et à Lille dans la matinée, 15 à Besançon et Lyon, 16 degrés à Paris et Bayonne, 18 degrés à Perpignan, 23 degrés à Nice et sur la Corse.